Bonsoir et ravi de vous savoir aussi nombreux pour une analyse rétrospective de l'actualité de cette semaine. Nous commencerons par le conseil de ministres qu'a présidé ce vendredi à Matadioba, Congo, le chef de l'État, dans un contexte d'affrontement qu'il y a eu entre la police nationale et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundudia Congo. Nous parlerons ensuite de la première plénière de l'Assemblée nationale avec les dissensions autour de l'interpellation du Premier ministre. Enfin, nous analyserons le rapport des travaux de la commission de revisitation des contrats miniers, rapport publié ce jeudi. Comme invité, comme la semaine passée, nous avons Nickel Kibelbel, éditeur du journal Les Coulisses de Beni au Nord Kivu. Aujourd'hui, il intervient à partir de Kampala en Ouganda. Médard Mbuyal Mangal, analyste politique à la télévision nationale congolaise RTNC, qui est avec nous dans ce studio. Et Louis-Dor Balekelaï, journaliste présentateur du journal télévisé au sein de la télévision privée Congo Web, émettant depuis Kinshasa. Il intervient aujourd'hui à partir de Bukavu au Sud Kivu. Avant d'aborder notre premier thème, faisons un petit crochet à Bukavu au sud Kivu, où vient d'être élu le nouveau gouverneur de cette province, Maître Léon-Louis Moudéroy. Louis-Dor Balekelaï, bonsoir.
Bonsoir, Claude Kenga.
Vous êtes présentateur du journal télévisé de Congo Web, une chaîne de télévision émettant de Kinshasa, et vous êtes sur place à Bukavu au sud Kivu. En quelques mots, comment s'est passée cette élection?
Je dois tout juste dire que c'est une élection qui a surpris beaucoup d'uns, dans la mesure où l'on sait que l'écologie politique de la province du Sud Kivu a toujours été particulière. C'est une province où la société civile est sensiblement critique vis-à-vis.
Allô, nous avons quelques problèmes avec la ligne téléphonique à travers laquelle intervient Louis-Dor Balekelaï, mais nous allons tenter de le relancer. Donc, bonsoir Nikez Kibelbel.
Oui, bonsoir Claude.
Vous êtes éditeur du journal Les Coulisses de Beni au Nord Kivu. Vous intervenez aujourd'hui depuis Kampala en Ouganda. Le nouveau gouverneur succède à Tshibalonza qui avait démissionné en février. Quels sont d'après vous les grands enjeux pour diriger une province telle que le Sud Kivu?
Les enjeux sont nombreux, mais il faut dire aussi que l'élection de l'actuel gouverneur ne s'est pas passée sans un écroche. Il devra d'abord commencer par réunir, faire l'unité de tous les chiffres, parce que la campagne était pratiquement une campagne de division entre les chiffres des cabarets dont il est originaire et les chiffres de Ngoché. Donc ça, c'est d'abord la grande préoccupation, faire l'unité des chiffres. Et puis, il y a des problèmes de cohabitation, notamment dans vers Uvira, entre les populations rwandophones et les populations, je dirais, autochtones, même si le mot n'est peut-être pas celui-là. Et il y a le problème de développement, il y a le problème de frontières avec nos voisins, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Donc, il y a tout autant de problèmes auxquels il devra faire face, mais il faudra d'abord qu'il trouve l'unité de la province, parce que c'est une province qui est très bouillante. Et il faudra qu'il trouve l'unité avant d'entamer le chantier de développement de cette province.
Merci beaucoup, Nikez Kibelbel. Mbuyal Mangal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique à la télévision nationale congolaise RTNC, ici à Kinshasa. Qui est l'homme qui vient d'être élu à la tête du Sud Kivu et que peut-il apporter de nouveau à cette province? En a-t-il les tripes, comme on le dit?
Je ne dirais pas, je ne le connais pas assez bien, ou je le connais tout de même comme acteur, parce que j'ai connu le gouverneur du Sud Kivu quand il était au cabinet du ministre Didier Moumengue au ministère de l'Information et de la Presse, et puis lorsqu'il est passé vice-ministre de Mines. Donc, comme acteur politique un peu de manière éloignée, je le connais, il a posé un certain nombre d'actes, mais ce n'est pas suffisant que je puisse affirmer beaucoup de choses sur sa personne et sur ses ambitions pour sa propre province.
Mais comment vous interprétez alors cette élection après la démission de l'ancien gouverneur Tshibalonza, quand même, qui était assez flou, hein, cette démission quand même?
Ben oui, il y a justement tous les enjeux des positionnements des acteurs politiques de la province. Il n'y a pas eu suffisamment d'informations sur la démission de Tshibalonza, mais aussi, je me souviens qu'au moment où Tshibalonza avait été élu en ce moment-là, pratiquement toute la population de Bukavu était aussi surprise que ce soit lui qui ait été élu à ce moment-là. Ça veut dire que l'opinion publique n'était pas avec lui. Maintenant, bah, ce qui vient d'arriver avec Mouderoua, espérant qu'il va conduire la barque pour que la province ait la paix. Finalement, s'il y a la paix au niveau des frontières, c'est toute la République qui pourra bénéficier de cette paix.
Merci beaucoup. Bon, on va essayer de reprendre Louis-Dor, puisqu'il est sur place à Bukavu. La réalisation me signale que Louis-Dor Balekela est de nouveau en ligne. Donc, vous êtes sur place à Bukavu, au sud Kivu. Comment s'est passée l'élection de Louis Léon Mouderoua?
Merci bien, Claude Kanza. Je crois que, au terme d'un micro-baladeur que nous avons effectué sur la ville de Bukavu, mais surtout auprès des grands électeurs que sont les députés provinciaux, l'élection s'est déroulée dans des conditions vraiment transparente, et vous suivez même l'ambiance et la fête ici à Bukavu. Et les choses n'ont pas été faciles parce que on craignait que les députés AMP ne puissent pas voter pour le candidat AMP, comme ce sont les mêmes députés qui ont réussi à renverser un gouverneur de l'AMP issu du PPRD il y a quelques mois. Mais en tout cas, je crois que M. Evariste Bossab se trouve être le secrétaire général du PPRD, a mis tout son temps pour utiliser son oratoire pour échanger avec les députés provinciaux afin de leur faire comprendre qu'il y allait de l'intérêt de leur province que d'opérer un choix en âme et conscience et de manière responsable, parce que à vouloir trop casser les autorités provinciales, on retarde aussi le développement donc de cette province du Sud qui a tant souffert. Et donc le score a donné 33 voix pour Louis-Léon Mouderoua contre une voix pour l'un des challengers, un autre s'était déjà retiré, un autre n'a récolté aucune voix.
Est-ce que tous les candidats étaient du PPRD ou de la mouvance présidentielle?
Non, du côté PPRD, il n'y avait que le gouverneur élu, lui, Léon Mouderoua. Les trois autres candidats s'étaient présentés sous le label d'indépendants. Donc c'était ça la configuration donc de cette élection.
Et vous qui êtes sur place à Bukavu, qu'est-ce que cette élection représente ou apporte comme espoir à la population du Sud Kivu?
Beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses, mais surtout les attentes inassouvies de la population de cette province qui a tant souffert des différentes guerres que la RDC a connues, qui sont parties principalement de Bukavu, qui est devenue à un certain moment le ventre mou de la République. Pour la population, c'est un rouf de soulagement. Et déjà, avant même qu'on arrive au jour de l'élection, la population était déjà sûre du candidat qui allait être élu. Et c'est un fils de Bukavu, né à Bukavu, grandi à Bukavu. Il a été élu député national à Bukavu. Donc, c'était un candidat que la population connaissait très bien, raison pour laquelle les députés provinciaux ont opéré leur choix sur lui. Et donc, la population attend principalement et la paix, la sécurité, mais aussi la relance des activités économiques sur l'ensemble de la province.
Merci beaucoup. Passons maintenant à notre premier thème du jour. Donc, le chef de l'État dirigé ce vendredi à Matadi, le Conseil des ministres, c'est dans un contexte d'affrontement qu'il y a eu entre les adeptes de Bundia Congo et les éléments de la police nationale congolaise. Il convient également de signaler que c'est le premier déplacement du Premier ministre Antoine Gizenga à l'intérieur du pays depuis qu'il dirige le gouvernement. Quelle signification donnez-vous à cet événement, Nikes Kibelbel, vous qui êtes éditeur du journal Les Coulisses?
Oui, merci Claude. Il faut dire d'abord qu'il y avait opportunité pour que le Conseil des ministres soit tenu à Bakongo Matadi, parce que d'abord il fallait calmer les jeux et montrer que le gouvernement contrôlait la situation, que rien ne lui échappait. Ça, c'est de un. Le président de la République ne pouvait pas rester longtemps silencieux devant tout ce qui se commet là-bas, devant tout ce qu'on met sur le dos de forces de l'ordre, c'est-à-dire sur le dos du gouvernement, et aussi devant tout ce qu'endure la population. Ça, c'est de un. De deux aussi, pour Antoine Gizenga, ça casse un peu l'immobilisme dont il est accusé. Donc, il fait un déplacement, le premier, comme vous soulignez, depuis qu'il est premier ministre. Bon, en fait, le gouvernement commence, je ne sais pas si ça va s'arrêter là, commence avec le conseil des ministres qui devront se tenir dans toute la République pour casser l'image de Kinshasa qui est pratiquement seul lieu indiqué des institutions. Bref, je dirais que c'est une visite d'espoir pour les populations du Bas-Congo qui ont souffert. mais aussi une visite qui annonce les autres dans la mesure où le gouvernement pourrait tenir des réunions dans d'autres villes du pays.
Merci beaucoup, Nikez. Médard Mbouyal Mangal, et vous, quelle signification particulière donnez-vous à cet événement?
Non, je pas la première signification, si le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Matadi vise à rassurer la population congolaise qui a été victime des actes de Bundu du Congo et des actes posés par un certain nombre de policiers. Donc ça, il faut saluer. Et deuxième moment, si ça consiste à finalement apporter la compassion pour tous les gens qui ont souffert, ça il faut le saluer. Mais il faut plutôt rappeler que la République démocratique du Congo, telle que nous l'avons coutume de le dire, est un sous-continent. Donc ça veut dire que le président de la République devra être partout et tout en étant aussi absent. Partout, il devrait être partout à travers le gouverneur des provinces, à travers le président des assemblées provinciales. C'est eux qui devraient faire en sorte que le président soit visible à travers le fonctionnement de leurs institutions pour garantir finalement ce que nous appelons l'administration de proximité. Donc, ça, il faut le souligner. Mais il y a aussi les services techniques de l'État, tels le Bureau central de coordination de SECO et le Fonds social de la République, qui devront, à travers le pays, là où les problèmes sont tentés de se poser, rassurer toutes ces populations que la République existe. Or, je constate avec amertume que la plupart de ces services bougent avec la signification politique. Je veux dire quoi? C'est dès qu'il y a un homme politique derrière, qu'il y a un ministre ou un élu du peuple qui fait un peu de bruit sur son coin, à ce moment-là que les services de l'État bougent. Or, partout, tous les coins de la République ne sont pas représentés au gouvernement ni dans les instances, c'est vrai d'une manière ou d'une autre. Alors, la République ne devra pas fonctionner sur base des individus qui se trouvent soit au gouvernement, soit... Donc, il faut rassurer tout le monde. C'est voilà pourquoi, par exemple, je vais vous donner un cas, c'est qu'au Kasaï occidental, des ressortissants du secteur de Kavula, Mbouïtite, ont décidé de lancer le festival culturel et agricole de Souba. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes des oubliés de la République. Parce que nous assistons à la dégradation des infrastructures sociales, les écoles qui commencent à disparaître. Ce sont des écoles qui ont été créées par le Fonds du bien-être indigène pendant la colonisation. Et ces écoles qui disparaissent, et les hôpitaux qui disparaissent, dit, du moins à travers le festival culturel agricole, on aimerait démontrer que nous sommes attachés à la terre et que nous allons faire de l'agriculture un levier du développement. Donc voilà des choses qui doivent interpeller. Donc, n'est pas seulement lié la présence, parce que finalement, je me dis, à 365 jours, le président de la République va visiter combien de coins de la République.
Merci beaucoup, Médard Mbouyal Mangal. Ludor Balekelaï, vous êtes justement à l'intérieur du pays, à Bukavu, Sud-Kivu. Comment, à Bukavu, on perçoit le conseil de ministres qui se tient à Matadi après les tristes événements qui ont eu lieu?
Bien, merci Claude. Je crois que la plupart des cadres politiques de la province du Sud-Kivu que j'ai pu approcher en rapport avec ce conseil des ministres qui se tient à Matadi ont pratiquement marché sur la même voie que Félix Bélébène qui intervient de Kampala, de la même manière que mon confrère Mbouyal qui est au studio, pour dire que les élections que ce pays a connues en 2006 ont laissé une sorte de stigmate psychologique dans l'imaginaire collectif du peuple congolais, dans la mesure où ces élections, à tort ou à raison, ont dû découper la République démocratique du Congo en deux zones électorales. On a parlé de l'Est et de l'Ouest. Et que, pour la plupart des cas, beaucoup de compatriotes considèrent que le chef de l'État est beaucoup plus attaché à l'Est, dont il est originaire, qu'à l'Ouest. Et on l'a dit dans les médias, dans les analyses politiques, dans les chroniques politiques, nous pensons, pour ce qui nous concerne, à ce cadre politique du Sud-Kivu, que le geste que le président de la République a fait ce jour est digne de l'ordre. On voit qu'effectivement, il n'est pas seulement le président de l'Est, mais également de toute la population qui se trouve à l'ouest de la République.
Ludor Balekelaï, excusez-moi de vous couper la parole. Est-ce que ce n'est pas par défi que le chef de l'État préside un conseil de ministres à Matadi ou vous trouvez plutôt que c'est pour lancer un message d'apaisement aux habitants du Bas-Congo qui ont perdu les leurs dans les malheureux événements qui s'y sont déroulés?
Tout à fait. J'allais en arriver là, mais c'est pour tracer des choses que j'évoquais, c'est un préalable. Un défi comme tel, je ne pense pas, mais je vois plutôt dans cette initiative du chef de l'État une consolation psychologique pour cette population que certains leaders politiques ou religieux, à tort ou à raison, ou en tête de fonctionnement politique, ont présenté comme une position, une population qui subissait une chasse à l'homme, une population qui était discriminée, une population qui était marginalisée. Et donc, en allant vers cette population à ce jour, je pense que le chef de l'État a voulu faire un démenti cinglant face à ce chantage, politique. Mais je voudrais terminer en disant que ça ne suffit pas d'aller tenir des conseils des ministres à l'intérieur du pays, mais il faut aussi que les attentes majeures, les interrogations majeures de la population rencontrent quand même un écho favorable dans le chef des gouvernants et principalement celui de l'État. Et parmi ces attentes, je vois d'abord le problème du ventre qui préoccupe au plus haut point la population, donc de l'ensemble du pays. Il faut, aussi longtemps qu'on nous fait attendre les cinq chantiers, que la population mange en attendant. Elle ne peut pas mourir de faim.
Merci beaucoup, Louis Dorbalekela. Et pour terminer cette première partie de notre émission, Nicaise Kibelbel, le Premier ministre, se déplace à l'intérieur du pays pour la première fois depuis qu'il est à la tête du gouvernement. Quelle lecture faites-vous de ce déplacement?
Disons que nous avons eu la chance de l'interviewer, peut-être nous sommes parmi les premiers. Nous lui avions posé la question sur son immobilisme supposé ou vrai. Il avait répondu qu'il ne pouvait pas se déplacer parce que son déplacement coûtait énormément d'argent par rapport à d'autres ministres. Mais vous savez que de plus en plus, même au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, tout le monde est en train de fustiger cet immobilisme. Alors aujourd'hui, qu'il se déplace et qu'il s'est déplacé pour le Bas-Congo, c'est une première. Et nous espérons qu'il va faire le tour de la République.
L'est du pays où il y a beaucoup de problèmes, aussi bien sécuritaires ou avec le tremblement des terres.
Oui, notamment l'est du pays. Et puis vous savez que à l'est ici, on a tendance à croire que le problème de sécurité ne les concerne pas, ça ne concerne que le chef de l'État. Il devra arriver à l'est, il devra arriver à Kisangani, qui est son ancien bastion, vous le savez très bien. Donc, les populations de l'Est, pour un peu prendre l'inverse de ce que disait Ludor, les populations de l'Est ont besoin de voir le premier ministre Gisela, elles voient déjà le chef de l'État. Comme ça, on sent une certaine relation directe, une certaine complicité entre le président de la République et le gouvernement.
Merci beaucoup, Nicaise Kibelbel. Passons maintenant à notre second thème du jour. La première plénière de la session de mars 2008 à l'Assemblée nationale a eu lieu ce jeudi. Les députés ont, dans un premier temps, adopté les matières qui seront examinées au cours de cette session. Par la suite, ils ont examiné la proposition d'interpellation du Premier ministre déposée le 11 mars dernier au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationales d'Élie Sétanga du MLC pour plusieurs députés. Cette interpellation viole la Constitution en ce qui concerne la procédure. D'après eux, elle a été déposée pendant les vacances parlementaires, alors qu'elle doit l'être pendant une session ordinaire ou extraordinaire. C'est le cas des députés de la plateforme Ordre des démocrates républicains, une plateforme politique de l'opposition, qui estime qu'il y a des choses à reprocher au gouvernement Gisenga, mais chercher à le faire tomber, c'est créer un chaos dans le pays. Écoutons Roger Lumbala, député et président de l'ODR.
Le changement du gouvernement ne peut pas être l'affaire de l'Assemblée nationale comme on veut le faire passer. Si le PPRD veut faire partir Antoine Gisenga, le chef de l'État a toutes les prérogatives de prendre ses responsabilités pour faire partir le Premier ministre, c'est de dire ou de se servir des députés de l'opposition pour que, le moment venu, que la motion de censure soit adoptée. Nous voulons qu'Antoine Gisenga, le Premier ministre, améliore les conditions de vie des citoyens congolais. Donc, le souci que nous avons, c'est d'éviter à ce que nous tombions encore dans l'instabilité de nos institutions.
Quant au député Denis Sessanga, initiateur de cette interpellation, il se dit ne pas être découragé. Il compte se mettre en règle quant à la procédure, conformément aux recommandations de la plénière. Selon lui, le contrôle de l'action gouvernementale fait partie des attributions de l'Assemblée nationale. Denis Sessanga est au micro de notre confrère René Capitain.
Je ne suis pas découragé. Je pense que l'Assemblée nationale doit gagner en crédibilité parce qu'il doit pouvoir contrôler. Ce pays va très mal sur tous les plans. Nous n'avons pas un gouvernement qui a une politique trouvable et sensée. Et il est de notre devoir de pouvoir remettre les pendules à l'heure et nous allons le faire. Ce qui est constant désormais, c'est que pour soustraire le Premier ministre et son gouvernement de la mise en œuvre de la responsabilité, on recourt à des expédients de procédure, ce qui n'est pas honnête parce qu'il faut pouvoir recourir aux arguments de fond. Donc je pense, ceci dit, nous allons mettre en harmonie la forme avec la recommandation de la plénière et on sera de toute façon obligé de pouvoir s'être du fond.
Médard Mbuyal Mangala, je rappelle que vous êtes analyste politique à la télévision nationale RTNC Kinshasa. J'ai sous mes yeux la tempête des tropiques du mercredi 19 mars 2008 et on y lit à la une AMP, le pavé de Maître Mbuyu, l'homme du sérail présidentiel, déplore le pilotage à vue au sein de la plateforme au pouvoir. Finalement, le Premier ministre est en difficulté ou quoi, malgré les contradictions qu'il y a au sein de l'opposition concernant justement l'interpellation du Premier ministre?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction. Tous perçoivent que le pays va mal. Alors, le pays se porte très mal. Dès lors que le pays est tenté de se porter très mal, le premier regard est dirigé vers le Premier ministre. Or, nous venons de rappeler qu'il y a dans son cas une sorte d'immobilisme. Dès lors que le Premier ministre ne bouge pas, et il met mal à l'aise le Président de la République.
Est-ce que il faut qu'il bouge physiquement ou faire bouger les choses?
Mais faire bouger les choses physiquement aussi, ça veut dire, quand on dit il y a tel chantier, que lui aussi soit là pour voir de ses propres yeux, c'est vrai qu'il y a des rapports qui lui parviennent, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il peut y avoir des mensonges. Et on peut vous faire parvenir un rapport de mensonges. Donc vous n'avez pas la capacité de vérifier les faits. Et justement, pour une république qui sort de la torpeur, même la présence physique compte. Et à ce niveau, disons-le que le Premier ministre met mal à l'aise le président de la République. Mais le président ne veut peut-être pas le dire. Hein. Il peut utiliser, même les gens, nous sentons et nous savons que ça ne marche pas assez. Mais quel est le moyen dont dispose le président de la République pour se débarrasser d'un Premier ministre dès lors qu'il y a eu la signature, une alliance, une convention? C'est à ce niveau qu'il y a un peu de problème. Il va falloir trouver des formules. Il faut trouver des formules pour tout en maintenant cette alliance, mais permettre qu'il y ait par exemple des changements au niveau de la primature, ce qui faciliterait peut-être un certain nombre de choses. Ou dès lors qu'on ne veut pas changer la tête de la primature, il va falloir qu'on nomme carrément des vice-premiers ministres qui aient suffisamment de pouvoir, qui aient la capacité de bouger, de circuler à travers la République.
Médard Mbuyal Mangala, certains observateurs estiment que s'il le faut, on peut peut-être mettre le Premier ministre actuel à côté et puis choisir l'un de ses colistiers au niveau du Palou pour exercer ses fonctions.
Ce n'est pas un problème. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus un problème d'individu, mais on a besoin de son accord moral, mais on a besoin que la République suive, que la République survive, parce qu'il y a plusieurs défis de sécurité par rapport aux frontières, défis de survie par rapport sur le plan diplomatique, mais il y a autant de défis pour une République qui est en train de se rechercher aujourd'hui. Et justement, le premier espoir, on le place au niveau du Premier ministre. Dès que le Premier ministre devient une source de blocage, rien ne marchera. C'est vrai qu'il peut y avoir des ministres qui, à gauche, à droite, qui aient une initiative, mais ça ne suffit pas. Il faut que toute la dynamique gouvernementale bouge.
Ikez Kibelbel, vous êtes éditeur du journal Les Coulisses de Beni en Nord-Kivu et vous intervenez à partir de Kampala en Ouganda. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le PPRD voudrait se débarrasser du Premier ministre en utilisant l'opposition, comme vient de le dire dans ce sens que nous venons d'écouter Roger Lumbala de l'opposition?
Il y a deux scénarios à retenir. Le premier scénario, c'est que l'entourage du chef de l'État, dont l'AMP, n'est pas d'accord avec le Premier ministre. Alors, il essaie d'utiliser, de manipuler l'opposition pour que l'opposition puisse présenter, elle, disons, assumer cette charge de la motion qui démettrait le Premier ministre. Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième serait que on lance la motion effectivement pour pousser le Premier ministre à expliquer les grands travaux, notamment les contrats avec la Chine. Et après la motion, on va bloquer au niveau du vote, parce que le Premier ministre et le chef de l'État sont liés. Disons, le Premier ministre et l'ex-candidat Kabila sont liés par un accord de gestion du pays pendant 5 ans. Parce qu'il faut souligner aussi, comme on le dit au Palou, l'accord n'a pas été signé avec l'AMP. L'accord avait été signé avec le candidat Joseph Kabila et le Palou. Et la question qu'on se pose, est-ce que le chef de l'État va prendre, à quel intérêt émuler le Premier ministre d'Uganda en le faisant de mettre par une voie ou une autre voie? Mais au-delà de ces deux scénarios, on peut poser le vrai problème. Le vrai problème se pose en termes de moyens, d'argent. pour mettre en exécution les chantiers tels que promis, tels que, disons, donnés à la population.
Nikev, excusez-moi. Oui, allez-y.
Le gouvernement a signé des contrats avec les Chinois. Mais vous savez que ce sont des grands travaux. Il faut que le matériel arrive au Congo. Et le matériel, il faut le commander, il faut le transporter jusqu'au Congo. Donc le retard, d'après certaines analyses, c'est un retard raisonnable. Même si on change aujourd'hui le Premier ministre, celui qui le remplacera, tant qu'il n'y aura pas d'argent, tant que les matériaux de construction et tout ça ne seront pas arrivés à Kinshasa, disons au Congo, nous continuerons à vivre cette léthargie parce qu'il n'y a pas d'argent dans les banques congolaises pour décoller avec le développement du pays.
Louis-Dor Balekela est maintenant en ligne. Je rappelle que vous êtes journaliste présentateur du journal télévisé au sein de la télévision privée Congo Web, émettant depuis Kinshasa. Et là, vous intervenez à partir de Bukavu, au sud de Kivu. Donc, on a suivi Roger Lumbala qui estime que le PPRD ou la majorité voudrait se débarrasser du Premier ministre en utilisant l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vraiment la majorité voudrait se débarrasser du Premier ministre, Antoine Gizenga?
Bon, écoutez, je ne m'en vais pas répondre à l'honorable Roger Lumbala, parce que je n'ai pas le mandat du PPRD pour lui répondre sur ce qu'il venait de déclarer. Mais je crois qu'en tant que journaliste, analyste politique, je peux quand même me permettre de dire que l'honorable Lumbala, un homme politique que je connais très bien, pour qui j'ai beaucoup de considération, ne semble pas être très sincère en disant cela. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il n'y a que le PPRD qui constate que le gouvernement ne fonctionne pas normalement. Je crois que c'est l'ensemble du peuple congolais qui constate cela. Et la Constitution dit très bien que le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre. Moi, je pense que par-delà l'inconstitutionnalité de la démarche de l'honorable Tshisekedi, les problèmes qu'il pose sont des problèmes fondamentaux. Ce sont des interrogations majeures du peuple congolais. Et ces interrogations, on ne peut les poser qu'au Premier ministre, qui est le chef de l'exécutif national. Moi, je pense que nous devons être sincères pour comprendre que le pays va mal, que tous ces mouvements de grève qu'on connaît depuis plusieurs mois doivent susciter en nous des interrogations, mais également des réponses apodictiques, des réponses pragmatiques que la population attend. C'est tout à fait normal que les députés qui ont reçu ils sont de contrôler l'exécutif national et ce genre d'initiative pour qu'effectivement la population congolaise soit informée de la marche de son gouvernement. Moi, je ne vois pas l'intention de nuire dans cette démarche du député Tshisekedi. Je ne vois pas en quoi non plus la marche du pays constitue une préoccupation exclusive du PPRD et de l'AE. C'est un problème que tout le peuple congolais voudrait vraiment qu'il soit résolu le plus tôt que possible.
Mais est-ce que vous pensez, Louis-Dor Balekela, qu'un changement à la tête du gouvernement résoudrait le problème d'immobilisme, comme aiment bien le dire certains membres de l'opposition?
Bon, moi je pense que c'est à eux de voir le texte qui les lie entre eux et ceux de l'ANC. Mais vous vous imaginez, nous avons été par exemple à la conférence de Goma. La population nous demandait où se trouvait le Premier ministre. Il y a eu des problèmes sur l'ensemble du pays. La population se demande où se trouve le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un Chinois, c'est un véritable Chinois. Il n'a jamais fait la ronde des 27 communes de la capitale congolaise. Donc cela, ce sont des questions que la population se pose. Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est lié au fait qu'on ne lui donne pas la possibilité d'exercer cette fonction de Premier ministre? Alors, il faudrait qu'on pose des questions justement comme on veut les poser et qu'il y ait des réponses que la population attend. Moi, je pense que c'est à elle de voir les textes qu'il est mis au sein de l'AMP au niveau de la coalition et de voir dans quelle mesure on trouve une solution aux problèmes de la population.
Merci. Merci beaucoup, Louis-Dor Balekela. Je reviens à vous, Médard Mbuyal Mangala. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Premier ministre est vraiment en difficulté et cela pourrait le pousser à démissionner? Et si c'est le cas, est-ce qu'au niveau du Palou, il y a quelqu'un qui peut prendre sa place? Raisonnons un peu à l'absurde.
Donc, ne retombons pas dans l'état du parti état que je n'oserais pas dire le mouvotisme. Le chef se considérait comme étant le seul et unique détenteur du pouvoir, détenteur de pensée, et que toutes les idées qu'il émettait avaient force de loi. Non, au Palu, il y a bien des cadres, mais peut-être qu'il faut protéger pour le moment au risque de ne pas les exposer soit à la colère du Premier ministre lui-même, soit à la vindicte populaire. Non, il y a des cadres, pardon, on l'a vu, le ministre du budget, Mouzito, c'est un cadre que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, Mayobo lui-même, c'est un cadre que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Il existe bien des cadres, mais justement, il va falloir la volonté du Premier ministre lui-même pour qu'il inscrive l'action dans la pérennisation. Donc, si on parvient à pérenniser c'est l'accord ou la convention entre le Palou, comme ils le disent, avec la MPO ou avec le candidat, l'ex-candidat Joseph Kabila, donc, mais pourvu que l'État retrouve ce lettre de noblesse. Donc il y a bien des gens au Palou à qui il va falloir un jour confier la responsabilité s'il est dingue à lui-même à accepter de jouer le jeu.
Merci beaucoup, mesdames Mbuyal Mangala. Donc, nous allons directement passer à notre troisième et dernier thème, qui est la publication jeudi dernier du rapport des travaux de la commission de revisitation des contrats miniers, rapport publié après plusieurs mois de retard, car ces travaux devaient en principe durer 3 mois. Le ministère congolais des mines a publié ce jeudi le rapport de la commission chargée de revisiter les contrats miniers. Il s'agit d'environ 60 compagnies qui ont signé des conventions et partenariats avec l'État congolais ou avec les entreprises publiques minières, des contrats signés pour la plupart en période de conflit. Il n'y a presque pas de contrats dits normaux ou de catégorie A, selon le langage de la commission. La majorité des contrats est classée en catégorie B, c'est-à-dire à renégocier. Mais la commission propose que soit résiliée une quinzaine de contrats, dont 6 partenariats avec la GECAMINE. Les raisons de ces résiliations vont du statut flou concernant les signataires au manque d'évaluation des gisements à exploiter. Notre confrère Georges Kamoujova, qui a subi pour nous ce dossier, nous fait le résumé de ce rapport.
Dans le contrat avec Anvil Mining, la commission constate que l'État ne gagne absolument rien. La compagnie exploite le cuivre et l'argent près de Kilwa au Katanga, en particulier les gisements de Dikoulouchi et Kapulo dont la valeur minimale est estimée à 1,230,000,000 $. Au sud Kivu, le contrat avec Banro est pointé catégorie C, à résilier. Banro exploite l'or et le thé à Kamituga, là où il y avait son Minki, la société minière du Kivu. Banro a toujours été exempté d'impôts et des taxes et devrait donc payer près de 5,000,000 $. Toujours à résilier, mais cette fois-ci au Kasai, il s'agit de 5 000. La commission estime que la société a exclu la MIBA à la signature du contrat alors qu'elle exploite ses gisements. Elle n'a entrepris aucune activité de recherche comme mentionné dans la convention. La sud-africaine First African Diamonds, qui détient 80% des parts dans 5 000, devrait verser 198,000,000 $ à la MIBA. Autre contrat à résilier, c'est celui signé entre KHGM et Sodimico pour l'extraction et la vente du cuivre à Kimpe au Katanga. KHGM a donné à la commission des études de faisabilité en polonais, mais cela n'a pas empêché la commission de mentionner l'inexistence des travaux sur terrain. KHGM, en effet, devait construire une usine au Katanga.
L'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives, ITI en sigle, félicite le gouvernement d'avoir enfin publié le rapport de partenariat des contrats miniers. Selon le président national de l'ITI, cette publication marque la volonté du gouvernement de gérer dans la transparence. Mais il ne faut pas s'arrêter à la simple publication, dit-il. Jean-Pierre Mouteba recommande à l'État congolais de renégocier les contrats qui ont connu un début des travaux afin de les corriger. Il en appelle aussi aux sanctions à l'endroit des contrevenants. Jean-Pierre Mouteba, président de l'ITIE, a été joué au téléphone par notre confrère Jeff Ngoy.
Il faudrait maintenant, une fois les déséquilibres constatés comme c'est le cas, aller jusqu'à la renégociation de ces contrats, donc à la correction de ces déséquilibres. C'est qu'après le rapport, il faudrait qu'on mette en place une commission de renégociation des contrats. Et nous pensons que comme le gouvernement est à la fois partie prenante dans les contrats, le gouvernement devait laisser à une commission indépendante, une commission composée des experts, de la société civile et d'autres experts internationaux. C'est-à-dire qu'il y a des contrats où il faut payer les pas de porte, il y a des contrats où l'étude de faisabilité n'a pas été faite. Donc il y a tellement de divergences de contrats, si bien que chaque contrat doit être traité comme un cas unique. Par exemple, je prends les contrats GECAMINE d'emblée. Il n'y a aucun contrat qui est bon, d'une manière générale. Ceux qui ont signé les contrats pour le compte de l'État sont aujourd'hui dans les entreprises.
Il y aura évidemment des sanctions.
Naturellement, je crois que la société civile l'a dit plusieurs fois, il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que si vous ne le savez pas, il y a des pots de vin qui ont circulé pour signer ces contrats.
Rendons-nous directement à Kampala, d'où intervient Nikèze Kibelba, l'éditeur du journal Les Coulisses. Nikèze, comment vous réagissez face à la publication de ce rapport? Il y a des contrats léonins qui avaient été signés, notamment pendant la guerre. Certaines sociétés même étaient même exonérées de taxes et doivent beaucoup d'argent au gouvernement congolais.
Effectivement, on reviendra un peu sur le problème de l'impunité, mais il faudrait noter qu'à l'époque coloniale, toute convention minière se faisait accompagner d'un projet social dont bénéficieraient les populations qui habitaient le site, ce qu'on appelle les 1% additionnels. Vous avez la Chécamine qui a construit hôpital, école, tout ça, l'Amiba, Okimo, plantation de verre au Congo, et ainsi de suite. Mais actuellement, dans le style anglo-saxon, on arrive avec des mallettes de dollars. On négocie à Kinshasa, soit avec la présidente de la République, soit avec le ministère des Mines. On laisse des commissions et on défend sur le terrain, on exploite. On ne laisse rien à la population. C'est normal que nous puissions avoir un pays riche et que nous soyons pauvres. Parce que le style anglo-saxon qui consiste à venir avec des mallettes, on laisse tout à Kinshasa et on défend sur le terrain avec rien. Nous espérons que les États généraux, non seulement ont dénoncé ce qui se passe, mais les résolutions seront appliquées. Mais là aussi, le problème se pose. Ceux qui ont négocié, ceux qui ont bouffé les commissions se retrouvent aujourd'hui en position de force.
Et même dans certaines compagnies, certains de ceux qui ont négocié
dans ce cercle infernal. Et après, on demande au gouvernement à Gizenga de quitter parce qu'il ne travaille pas. Mais l'argent se trouve en domaine de ces gens-là. Il faut réhabiliter la justice.
Merci beaucoup, Nikèze Kibelba. Mbuyal Mangala, il y a par exemple la société Bandro qui était exemptée de toute taxe et impôts et exploitait l'or et l'étain à Kamituga, au sud Kivu. Comment peut-on l'expliquer alors qu'on se plaint que la population est pauvre, alors que pratiquement on donne l'exploitation gratuitement à certaines sociétés
minières? Nous sommes dans une situation de la mafia, apparemment. Et donc, sur le plan des textes, la société ne paye pas. Mais ceux qui ont négocié, comme le disait Nikèze, ceux qui ont négocié, sont ceux-là qui sont en train, jusqu'à aujourd'hui, de percevoir ces taxes-là d'une certaine manière.
Et il y en a qui font même partie de ces sociétés minières.
Mais justement, parce qu'il y a des méthodes en vogue, lorsqu'on veut signer un contrat avec une entreprise, on devient soi-même actionnaire. Vous parlez de mine, même au niveau de Kinshasa ici, à travers tous les magasins tenus par des Libanais, des Pakistanais, on assiste à des mêmes faits. Donc il suffit qu'un Libanais crie et puis les militaires et les policiers viennent de la gauche à droite pour pouvoir bloquer le Congolais à ne pas s'exprimer. Donc nous sommes face à une situation de corruption, la mauvaise gouvernance. Voilà justement des choses qui empêchent la République de démarrer, qui portent ombrage à l'image de la République.
Lidor Balekela, il y a par exemple des contrats dont le rapport a suggéré leur résiliation. C'est le cas de Sengamine au Kassai qui exploite l'or. Donc cette société a exclu même l'Amiba à la signature de ce contrat alors qu'elle exploite les gisements de l'Amiba. Elle n'a entrepris aucune activité de recherche comme mentionné dans la convention. Et aujourd'hui, le rapport demande à la société sud-africaine First African Diamond qui détient 80% des parts de Sengamine à payer 98 millions de dollars à l'Amiba. Votre réaction?
Je suis du Kassai. J'ai vu comment la société Sengamine est arrivée au Kassai. Elle est venue longtemps après l'Amiba et que je ne conçois pas comment elle pouvait se permettre de signer des contrats comme ça tout en excluant la société l'Amiba qui est là-bas depuis beaucoup de temps. Et plus grave encore, sur le plan social, cette société, depuis qu'elle existe, n'a rien fait du tout pour la population du Kassai oriental. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, où les élèves ne vont pas à l'école du tout, ou n'ont pas d'école viable pour pouvoir étudier. C'est donc la décision du gouvernement est à saluer et je crois que pareil contrat, le résilier, ça ne me fait pas beaucoup de peine. Mais par contre, il y a des sociétés qui avaient signé des contrats dans les territoires qui étaient jadis sous contrôle rebelle. Là, il y a un débat juridique qui mérite d'être soulevé pour savoir si les contrats qui étaient signés par des entités qui étaient gérées par des rébellions peuvent encore faire l'objet de discussions dans le processus de révisitation du Code minier de la République démocratique du Congo. C'est un autre débat. Mais tout ce qu'on peut dire aussi en synthèse, c'est qu'il y a un dilemme dans ce processus parce que les investisseurs qui n'étaient pas encore venus au Congo ou qui avaient envie de venir, quand ils voient qu'il y a des contrats que leurs prédécesseurs avaient signés qui sont en train d'être résiliés, ils peuvent être découragés quelque part, et donc cela appelle le gouvernement au sens de responsabilité, au sens de la bonne gouvernance, comme Mbuya l'a dit, et Michel Tibérebel. C'est donc quelque chose qu'il faut prendre au sérieux pour que la population tire vraiment les dividendes de ces minéraux que nous avons tant, dont nous nous vantons, mais qui ne nous rendent pas riches, qui ne nous rendent pas heureux.
Merci.
Donc, une préoccupation majeure.
Nikes Kibézé, que faut-il faire? Monsieur Jean-Pierre Mouteba, de Mitié, pense qu'il faudrait renégocier ces contrats. Est-ce que cela ne risque pas de dissuader certaines sociétés qui voulaient investir dans le pays à le faire?
Merci Claude. Je voudrais d'abord, si tu me permets, de souligner un cas spécifique des géologues congolais, des universitaires congolais qui travaillent, qui ont travaillé dans des sociétés comme Kilomoto, donc Okimo, que j'ai visité, qui vivent dans un état de misérabilité impossible.
Rapidement, on n'a plus que deux minutes. Rapidement, vous n'avez plus qu'une minute.
Oui. Ok, merci. Ces nouvelles sociétés qui arrivent, ils mettent de côté tous les géologues qui travaillaient avant. Mais il faut revisiter tous les contrats parce que nous avons besoin d'argent pour décoller. Donc il ne faut pas avoir peur de revisiter. C'est qu'on ne peut pas partir des bases fausses pour construire. Il faut des bases saines et construire. Et à ce moment-là, les Congolais pourront trouver leur compte.
Merci beaucoup, Nikes Tibérebel. Le dernier mot vous revient, mesdames Mbuya Mangala. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour faire redécoller tout le secteur minier congolais? On a l'impression qu'on a de l'argent, mais on se plaint qu'il n'y en a pas et on tend la main.
Il faut renforcer le pouvoir de l'État. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est que l'homme a été abandonné. Mais dans le contexte actuel, lorsque nous disons la refondation de l'État, passe aussi par la refondation de l'administration de l'État. Je parle de l'administration ordinaire, de l'administration de sécurité, l'administration de la police. Et ce sont tous ces éléments qui continuent finalement les mamelles de l'État. Il faut les renforcer pour qu'ils soient à mesure de donner à l'État tout son pouvoir et être à mesure d'exister comme entité viable.
Merci beaucoup. C'est par ce dernier mot de Mbuya Mangal que nous terminons cette émission. Je remercie tous mes confrères d'avoir participé à cette émission. Anthem Sissi Mumbere était à la réalisation et Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Au revoir et bon week-end à tous.